à toutes et tous et bienvenue dans l'émission Les Faramineux. Alors aujourd'hui, nous allons avoir notre chroniqueuse Poussadi Vani avec de retour pour ceux qui l'avaient entendu dans une autre émission animée il y a un an et demi qui s'appelait sa chronique mortelle. Elle nous parle de la mort d'une façon absolument extraordinaire, intéressante, passionnante et c'est pas effrayant du tout. Donc dans un instant, elle nous fera sa chronique. Ensuite, en deuxième partie d'émission, nous aurons Victor Pilon qui sera avec nous pour nous parler du projet Sisyphe. Donc on va parler de ce projet qui est quand même assez extraordinaire, cette performance marathon. Et il sera avec nous pour nous dire pourquoi, comment et tout le reste. Pour l'instant, nous partons en musique avec Sarah May et Fouki qui nous chantent « Quand la route est longue ».
Les hommes BDM et moi j'en fais fi. Ils disent je t'aime, connaissent pas le meaning. À fond dans le trafic, la routine. C'est facile perdre le nord quand t'as même plus dégué. Y'a pas de secret, y'a pas de recette magique. J'me méfie de ceux qui m'appellent la famille. Avec le temps j'ai dû me raffermir. Pas de choix pour éviter les ennuis.
Si le vibe est wrong, ne t'arrête pas. Quand la route est longue,
wanna get away. Hey. On peut s'évader.
Quand la route est longue, battu tous les chantiers.
Oh.
Personne n'aurait osé.
Oh.
Wanna get away. Quand la route est longue.
Yeah. Ils peuvent suivre mon chemin, mais tant que je les croise pas. Yeah. Ils peuvent repasser mon linge en autant qu'ils le froissent pas. Yeah. Quand la route est longue, je prends des raccourcis. Peu importe, ça va être où qu'on aboutit. Oh non, c'est impossible que je m'accroupisse. Seulement pour avoir sa porte du graffiti. Bam bada bam,
bam bada bam.
Si le vibe est wrong,
si le vibe est wrong.
J'fais la long life,
j'fais la long life.
Bye bye, j'suis gone.
Dans la route, non, battu tous les chantiers.
Oh.
Alors, sur une musique de Stéphane Grappelli, eh bien, on donnait juste l'espace-temps à notre chroniqueuse Poussa Divani de s'installer, de prendre toutes ses petites affaires pour pouvoir nous faire sa chronique mortelle. Bienvenue Poussa Divani, ça nous fait
bonjour,
plaisir de t'avoir.
Bonjour Arlette, bonjour tout le monde, bonjour Maurice, je m'excuse, hein, je suis...
J'étais en train de dire dans ma présentation que tu allais nous faire une chronique mortelle pour ceux qui connaissent et qui ont suivi les 5 à 7 quand on les faisait ensemble et tout ça. Et donc, que tu le présentais de façon, mais pas du tout, ça ne fait pas peur du tout, du tout. C'est même terriblement intéressant.
Ah, ben c'est bien que...
Et tendre, en plus.
Ah, c'est gentil, mais c'est sûr qu'il y a des fois, il y a des sujets qui sont plus tristes, hein, tu sais, comme des gens qui perdent des proches, puis la façon dont ces personnes-là peuvent, justement...
Oui, mais la façon que tu as de l'expliquer est toujours très sympathique. Elle m'a même fait rire, je vous jure, mesdames, messieurs. Et pourtant, ce n'est pas un sujet drôle. Alors, bon, la parole est à toi.
Ben, je suis contente de reprendre mes belles chroniques mortelles. Alors, hein, je vais essayer de vous faire, justement, plonger dans cet univers-là avec un peu plus de légèreté.
Alors, allons-y.
Alors, bon, on sait que la mort est omniprésente, puis bien sûr, elle est indissociable à la vie. Mais il y a des gens qui font un travail là, où la mort est omniprésente. Alors, je vais faire comme un petit saut avec ce que j'ai fait cet été avec toi, là, les jobs insolites, les boulots insolites. Alors, c'est comme un peu une continuité, un entre-deux pour débuter.
C'est le lien qu'il y a entre
les
deux.
Oui, c'est ça. Alors, bon, mais je vais vous présenter quelques métiers où la mort est omniprésente. Alors, bien sûr, un thanatopracteur. Alors là, j'ai goût juste de faire la définition de qu'est-ce qu'un thanatopracteur. Parce que souvent, les gens disent, est-ce que c'est un embaumeur? Est-ce que c'est un thanatologue? Qu'est-ce que c'est? Alors, un thanatopracteur, là, c'est un professionnel qui pratique les soins de conservation.
Voilà.
Alors, des soins d'embaumement ou de présentation sur le corps des défunts. Alors, donc, un thanatopracteur ou thanatopractrice, ou on peut dire embaumeur. Tu sais?
Oui, mais je préfère le terme thanatopractrice.
Oui.
Ou practeur, parce que ça donne comme quelque chose de mystérieux pour celui qui ne connaît pas, tandis qu'embaumeur, on sait déjà plus où on va.
Oui, il y a ça, mais ça fait plus professionnel, je dirais, le terme.
Peut-être aussi.
Alors, et puis, un thanatologue, c'est pas du tout ça, là, hein? Les gens se mêlent des fois. Le thanatologue, c'est un médecin légiste qui étudie la mort pour en découvrir les conditions de cette mort-là.
D'accord.
Alors, donc, il y a ces gens-là hein, qui pratiquent ce métier-là, ils sont confrontés à la mort à tous les jours.
Oui, mais alors, je vais peut-être venir mettre mes pieds dans ton plat.
C'est bien, c'est bien.
Mais parce que moi, le thanatopracteur, en fait, il offre... c'est pas triste, il s'occupe de la personne qui est décédée, il la rend plus beau, plus belle, il lui donne son meilleur aspect pour dire au revoir à ses enfants et partir, quoi, pour que les enfants et la famille puissent lui dire au revoir. C'est un beau métier?
Ben tout à fait. C'est un peu étrange, hein, mais
C'est pas triste, c'est le dernier axe de beauté pour la personne.
Ben c'est la dernière personne qui touche au corps, en fait, qui essaie de lui donner une apparence vivante. C'est ça que je trouve étrange, tu sais. La personne est décédée, mais elle, dans son métier, elle essaie de lui donner une apparence de...
Ben, peut-être que c'est important pour chacun des membres de la famille, quand on n'a pas envie d'avoir une image. Parce que entre ce qu'on dit, je veux l'accompagner jusqu'au bout, et puis l'image qu'on garde dans la tête, c'est quand même bien de garder une belle image.
Mais c'est sûr que ça doit être... en fait, elles doivent moins le pratiquer ces temps-ci avec la COVID où on peut pas exposer ou...
Parlons pas de cette spécificité, mais en temps normal, on va dire.
Oui, mais non seulement ça, avec les gens qui vont de plus en plus vers la crémation, c'est ce côté-là où le corps est exposé de moins en moins populaire.
Ah ben oui, c'est vrai.
Alors, c'est à s'y pencher, je veux dire, pardon, parce que je pense que c'est important de voir le corps. T'sais, pour pouvoir lui dire au revoir. Bref, ça, c'est mon opinion personnelle. Mais bon, c'était un des métiers où lequel, bien évidemment, ça, c'était... Mais logique qu'ils sont confrontés à la mort à tous les jours.
Est-ce qu'il ne rentre pas aussi une question d'argent? Hein?
Non.
Ça ne coûte pas moins cher de...
Par économie, ça coûte moins cher de passer par la crémation.
C'est ça aussi. C'est peut-être ça aussi qui fait la différence.
Et pour la majorité des gens aussi, ils considèrent que c'est plus écologique. Mais quoique maintenant, ils ont de plus en plus de produits, tu sais, dérivés, qui sont plus respectueux de la terre. Mais bon, moi, mon prochain métier qui est confronté à la mort à tous les jours, en fait, qui est confronté à la mort, c'est le métier que je trouve le plus insolite jusqu'à présent depuis que je travaille autour de ce sujet-là. C'est un clown d'enterrement.
Un clown d'enterrement?
Oui, c'est vraiment particulier. C'est un clown qui est là pour atténuer la tristesse des familles. Alors, tu sais, on sait que la mort, c'est une affaire sérieuse,
Je trouve ça super joli.
C'est, oui.
Ne serait-ce que pour les enfants, malgré le fait qu'on reste tous enfants toute notre vie, mais peut-être pour les enfants aussi, pour dédramatiser.
Oui, mais pas particulièrement pour les enfants. Justement, je vais vous parler d'un clown qui est en Belgique. C'est un policier. Il a 60 ans et il fait ça. Pas à temps perdu, mais comme deux double vie, mettons, comme deuxième emploi.
Ouais.
Alors, un clown d'enterrement. Donc, lui, il s'est dit, avec justement la mondialisation, la diversité culturelle, il y a plein de communautés qui a pas le même regard sur la mort que justement les chrétiens, si on veut, qui est plus triste, mais il y en a que c'est des danses, il y a de la... Et tout le monde célèbre, puis là, en tout cas, bref, les gens font appel à ses services et je trouve ça extraordinaire. Alors lui, il est là, il dit « Moi, je fais pas de blagues, il y a pas question de coussin péteur, de ballon. »
Ah ben oui, ben j'espère bien. Mais il le fait de quelle façon?
Alors, ça c'est juste sa présence qui est là. Au début, il dit « Les gens sont comme un peu... Oh, qu'est-ce que c'est ça? » C'est comme inusité de voir un clown.
Ben oui, c'est ça.
Alors, son nez est noir. Il a son petit clown de nez noir.
D'accord.
Il est habillé sobrement. Puis, il a sa petite valise. Il s'installe. Il est là. Juste sa présence apaise. Parce que c'est comme si ça dédramatisait quelque chose. Alors,
d'accord.
Les gens font appel à... Tu sais, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment très cool.
Je vois pas du tout ce que ça peut faire. Faudrait que je le voie, que je sois en présence pour me rendre compte de l'impression que ça donne.
Oui, mais c'est ça, c'est quand même...
Mais c'est quand même une belle idée.
Oui, c'est particulier. Alors, tu vois, lui, je vais le citer ici. Il dit « Je fais quelques petites choses durant l'enterrement, mais je n'arrive pas avec mes grands sabots. » Tadam! Tu sais, alors il dit, je ne fais pas de blagues, mais je ne suis pas non plus un clown triste qui pleure.
D'accord.
Je suis un clown qui comprend que dans la vie, il y a d'autres phases. Alors, c'est vraiment plus une fonction symbolique, tu sais, dans l'inconscient, parce que là, les gens, tu sais, ça détend l'atmosphère, là.
Oui, mais je comprends, effectivement.
Alors, c'est ça. Alors,
On se fait une petite pause musicale
avant
de continuer. Alors, pause musicale avec de temps en temps, d'où venez-vous?
D'où venez-vous, promenez-vous comme moi? 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 Derrière chez nous, y a ton champ de noix. D'où venez-vous, promenez-vous belle? Derrière chez nous, y a ton champ de noix. D'où venez-vous, promenez-vous belle? D'où venez-vous, promenez-vous comme moi? D'où venez-vous, promenez-vous comme moi? D'où venez-vous, promenez-vous comme moi? J'en cueille à deux, j'en mange à trois. D'où venez-vous, promenez-vous belle? J'en cueille à deux, j'en mange à trois. D'où venez-vous, promenez-vous belle? D'où venez-vous, promenez-vous comme moi? D'où venez-vous, promenez-vous comme moi? D'où venez-vous, promenez-vous comme moi? J'ai été malade au lit trois mois. D'où venez-vous, promenez-vous belle? J'ai été malade au lit trois mois. D'où venez-vous, promenez-vous belle? D'où venez-vous, promenez-vous comme moi? D'où venez-vous, promenez-vous comme moi? D'où venez-vous, promenez-vous comme moi? Tous mes amants veulent. Mes amants, venons y voir. D'où venez-vous, promenez-vous belle? D'où venez-vous, promenez-vous comme moi? D'où venez-vous, promenez-vous comme moi? D'où venez-vous, promenez-vous comme moi? Celui que j'aime, il ne vient pas. D'où venez-vous, promenez-vous belle? Celui que j'aime, il ne vient pas. D'où venez-vous, promenez-vous belle? Promenez-vous comme moi, d'où venez-vous, promenez-vous comme moi. Je l'aperçois là-bas qui vient, d'où venez-vous, promenez-vous belle. Je l'aperçois là-bas qui vient, d'où venez-vous, promenez-vous belle. D'où venez-vous, promenez-vous comme moi, d'où venez-vous, promenez-vous comme moi. D'où venez-vous, promenez-vous comme moi.
dans sa main droite tient un gant blanc. D'où venez-vous, promenez-vous belle, dans sa main droite tient un gant blanc. D'où venez-vous, promenez-vous belle, d'où venez-vous, promenez-vous comme moi. D'où venez-vous, promenez-vous comme moi.
D'où venez-vous, promenez-vous comme moi.
C'est pour nous marier ce printemps. D'où venez-vous, promenez-vous belle. C'est pour nous marier ce printemps. D'où venez-vous, promenez-vous belle. D'où venez-vous, promenez-vous comme moi. D'où venez-vous, promenez-vous comme moi.
D'où venez-vous, promenez-vous comme moi.
D'où venez-vous, promenez-vous comme moi.
D'où venez-vous, promenez-vous comme moi.
D'où venez-vous, promenez-vous comme moi.
D'où venez-vous, promenez-vous comme moi.
D'où venez-vous, promenez-vous comme moi.
Alors, Poussadi, nous voici de retour. Donc, parler d'un clown dans les enterrements, c'est pas tellement... J'y pensais pendant la chanson. En fait, c'est pas tellement qu'il y ait cette présence. C'est plutôt le fait de prononcer le mot clown. Le mot clown va tellement peu avec enterrement que c'est ça. C'est plus le terme qui me choque que le personnage.
Je comprends. Mais c'est ça, sa fonction est plus aussi thérapeutique, comme je disais, puis symbolique, là. En fait, tu sais, la plupart des enterrements auxquels il participe, c'est du bouche-à-oreille. Ce clown-là, de 60 ans, Peter, il s'appelle Lehman, qui habite en Bretagne, il dit « J'ai jamais été mal accueilli dans les familles. C'est souvent un père, un frère, une sœur qui dit « Viens ». C'est tellement triste que viens juste mettre une certaine ambiance. »
D'accord.
Parce que les gens, c'est vrai qu'ils sont mal à l'aise, on sait pas trop. Comment ça se fait que les gens chuchotent aussi? Ça, je me demande, dans les maisons funéraires, là. Quand on va...
Oui, il n'y a pas que dans les maisons funéraires, dans les églises aussi.
Oui, dans les églises, je peux comprendre, là, parce que... Mais...
Dans les maisons funéraires, c'est...
Ils sont des salles...
Si tu parles normalement, d'abord, on entend le son de ta voix et c'est comme une... C'est comme ne pas être respectueux du chagrin de la famille qui est là. On chuchote pour pas...
Oui, mais
enfin,
ça,
je pense.
Ben, je pense que c'est vraiment véhiculé différemment d'une culture à une autre.
C'est vrai.
Là. Mais dans les maisons, tu sais ça, ou des funérailles auxquelles j'ai participé, c'était vraiment toujours ça, les gens. Tu sais, mes condoléances, je vous offre mes condoléances. Puis là, tout le monde... Puis là,
parce qu'on a l'impression que peut-être qu'on va les faire pleurer si on parle un peu plus fort ou que les autres vont entendre. J'en sais rien.
Après, je sais même, je suis en train de me dire, est-ce qu'il y avait...
Je ne sais même plus...
Je ne sais pas s'il y a comme les règles, le mode d'emploi ou, tu sais, règles de conduite à l'entrée de la maison funéraire, là, chuchoter comme à la bibliothèque. Non, mais c'est vrai, ça devrait être quelque chose
de... Je ne sais pas. En fait, tu me poses une question, je n'en sais rien, pour te dire la vérité.
Mais en tout cas, toujours est-il que pour cette clientèle de clown d'enterrement, sa clientèle principalement est âgée entre 40 et 55 ans, donc ça voit... On voit à peu près...
D'accord.
Quel genre de public ferait affaire. Ouais. Et puis le coût, le tarif, pour ça, c'est quand même pas donné, mais c'est quand même un service là, spécialisé. Alors, c'est à peu près 448 $ canadiens pour un enterrement.
Ah, d'accord.
Pour avoir sa présence.
OK, ben écoute...
Alors,
on peut payer bien d'autres choses, alors pourquoi pas ça?
Ben oui, absolument. Alors, mais c'est sûr que ça va rester marqué dans l'imaginaire des gens qui participent aussi.
Parce que chaque fois que tu viens, tu nous apprends autre chose, alors c'est pour ça, ça me fait rire.
Non, mais c'est sûr que ça pourrait marquer aussi. Ben oui, je suis allée à une funéraire, il y avait un clown enterrement, waouh, c'est extraordinaire.
Oui, mais parce que dans l'imaginaire de celui à qui tu parles, à qui tu vas dire il y avait un clown, il va tout de suite penser les grandes pompes, le sourire jusque-là, les...
Ouais.
Et puis les... C'est-à-dire, mais quelle horreur! Mais c'est pas ça. Donc, il faut y aller pour le voir.
Oui, c'est ça. En fait, aussi, les métiers, d'autres métiers où la mort est omniprésente, c'est les designers de cercueils et d'urnes. Ceux qui créent les cercueils
oui.
et les urnes. On n'y pense pas.
Oui, c'est vrai, on n'y pense pas.
Mais tu sais, il y a de la recherche là-dedans, tu sais. Les gens, ils développent. Certes, mais sauf que pourquoi telle façon de faire, pourquoi une urne, tu sais, alors chaque artiste est différent et je trouve ça extraordinaire de voir...
Les urnes, je vois très bien à quel point on peut faire preuve de créativité parce qu'il y en a de toutes sortes. Le cercueil, il a déjà une forme Enfin, c'est tout le temps la même.
Parce que c'est réglementé.
Après, ça peut être le bois, c'est réglementé. Donc, il y a peut-être moins de créativité que dans les urnes.
Mais en Europe, c'est différent. Ils ont droit à des boîtes de carton en guise de cercueil, des cercueils en carton. Il y en a que c'est fait justement avec toutes sortes d'imprimés, comme des panneaux, comme des posters qu'on voit. Si tu peux avoir un cercueil avec Kiss dessus, le groupe Kiss. Tu peux avoir des petits papillons, un enfant qui dit « Ah, moi, j'ai aimé tel Pokémon. » Tu sais, les Pokémon, ben tu sais, tu fais imprimer les Pokémon.
Ah,
oui. Alors, ici, c'est parce que c'est très réglementé, donc on a le traditionnel, bien sûr, modèle, mais qui va...
Je ne savais même pas qu'en Europe, on pouvait faire des choses comme ça.
Oui, ça fait longtemps qu'ils offrent ça, eux autres. Je ne connais pas la réglementation, mais ils ont vraiment une gamme, une variété de cercueils, dont en osier, en fleurs de lys séchées tressées.
C'est une bonne idée, ça. On peut mettre les têtes de nos enfants?
Qu'est-ce que tu veux dire, les têtes?
Eh bien, mettre les photos de famille, des photos de famille.
Ben oui, tu fais imprimer.
Tu peux faire imprimer des photos de famille comme ça.
Comme un scrapbook, là.
Voilà, tu t'en vas avec eux.
Mais ça, c'est personnalisé.
Ben oui, c'est personnalisé.
Là, on parle d'objets vraiment personnalisés. Peut-être qu'on devrait se diriger vers ça dorénavant, éventuellement dans un futur, parce que ça pourrait permettre aux familles de célébrer, mais avec plus de sens, encore plus, monter ça à un autre niveau.
Oui.
Alors,
tout à fait. Puis ça doit être impressionnant et beau aussi.
Oui, moi j'ai trouvé.
C'est une idée. Je vais marquer ça sur mon.
Oui. Et puis on a aussi les écrivains de faire part et de décès.
D'accord. Ah oui.
Alors tu sais, des fois c'est les mots qui nous manquent, on ne sait pas quoi dire, on sait toujours la même chose, sincère condoléance, on pense à vous, vous êtes dans nos pensées. Mais puis des fois pour aussi des textes par rapport à la personne qui est partie, puis on doit présenter ça à la cérémonie. Bien, on fait appel à des écrivains. Alors, il y a des gens qui font appel à des écrivains. Ici, c'est pas très connu, mais il y avait quelqu'un, quand j'ai fait ma première édition du Salon de la mort, une journaliste qui avait parti d'une entreprise qui était magnifique, ça s'appelait Le Dernier Mot.
D'accord.
Et puis, elle écrivait la biographie des gens, mais je pense que c'était comme la carte, puis les gens pouvaient solliciter justement son talent d'écriture pour...
C'est bien, c'est une bonne chose, même si moi, je trouve que des fois, la recherche, c'est pas mal, parce que ça prouve que tu as pris du temps pour faire ta recherche, pour trouver une phrase qui résonne en toi et pour le souvenir que tu as de celle ou celui qui est parti. Mais bon, après, mais c'est bien aussi qu'il y en ait.
Ouais,
c'est parfait, c'est très bien. Il faut de tout pour tout le monde, justement. Mm-hmm. Ne soyons pas dans l'unité, soyons dans plein de différences.
Oui, absolument.
C'est ça le bon côté. Eh bien, écoute, c'est des métiers qui sont fabuleux, je trouve très, très...
Ah, il y en a tout plein d'autres encore, mais ça, on fera ça sur une autre...
le thanatologue, celui-ci, je le connaissais. Enfin,
le thanatopracteur.
Thanatopracteur, je le connaissais. Mais les deux autres, alors non, pas du tout. Je savais pas que ça existait. Et en plus, tu m'as donné une belle idée quant à l'enterrement dans une boîte en carton. Alors...
Oui.
C'est une bonne chose. Moi, je trouve que...
Mais je pense pas que ça va être accepté ici, là. Mais bon, regarde, peut-être que rendu là,
réglementations vont changer. Moi, je suis française, donc s'il m'arrive quelque chose, je vais être enterrée dans mon pays. Mm. Donc, j'aurai le droit au carton, je pense.
Alors, il faut rapatrier ton corps, là-bas?
Oui, ça va être difficile. On va voir. On y réfléchira. De toute façon, je suis pas pressée de leur laisser. Bon, nous partons en musique. Nous partons en musique avec Stéphane Morail qui nous chante Expensive.
Un loufin sans entrailles, malfacteur. Ou crier des fois, et seul sans prendre fait, se fourrer mes bras. Ou sans honte, ou sans sentiment. Jour à jour, viens, jour, consomme à well, non, je suis mes gênés. Ça passe au lac. Discours parlé, paroles déposées, rien pas réglé. Ou bien compté, mais mal calculé. Songez créant, bon Dieu, un pas qu'on efface. Yeah.
parfois sans entrailles, malfaiteurs. Ou crier des fois, et seul sort qu'on fait, c'est fourrer mes pans. Ou sans honte, ou sans sentiment. Jour à jour, viens jour, qu'on s'en m'en ouer, non, je suis mes gênés. La 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 la.
Voilà, donc maintenant, dans la prochaine demi-heure, donc restez avec nous puisque nous allons avoir Victor Pilon au téléphone et qu'on va parler du projet Sisyphe. Ça te dit quelque chose, Poussadi? Ben, tu vas voir. Je suis sûre que tu vas avoir des questions à poser. À tout de suite, restez avec nous.
Vous pouvez les faramineux avec Arlette Farah.
Ma cia, ma cité, ma fessibo. Ma mastique, ma cisaille, oh, ma sico. Ma sirène, ma sidéale, ma symétrique. Ma cinéphile, ma si jolie, ma systématique. Tic, 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 tic.
On s'est vrais ou aïminos, c'est à la bonne adresse. On s'est vrais ou aïminos, à ce pas tout m'a trouvé. Se vuoi lo vuoi mino lo vuoi e mai lo resta. O se vuoi lo vuoi mino
vieni ti fa de ben. Vieni ti fa de ben.
Oui vas-y prends les choses en main.
Vieni ti fa de ben.
Là tu es sur le bon chemin.
Vieni ti fa de ben.
Pour fabriquer ton lendemain.
Vieni ti fa de ben.
Mais non ce n'est pas surhumain.
Vieni ti fa de ben.
Si il faut choisir ton destin.
Vieni ti fa de ben.
Et oublier le baratin.
Et refuser d'être un panthère.
Il faut danser jusqu'au matin.
Fais le riddim et ton tremplin.
Va y aller vide le trop-plein.
Enfin reste joyeux et malin.
Allez fais tourner ton moulin.
Car il faut chasser les requins.
Et ignorer tous les mesquins.
Allons démasquer les coquins.
Oui fais remuer ton popotin.
Popotin, popotine, popotine, popotin. Les ragas et les gamines, les mamies et les gamins.
Ma sia, ma cité, ma fessibo. Ma mastique, ma cisaille, oh, ma sico. Ma sirène, ma sidéale, ma symétrique. Ma cinéphile, ma si jolie, ma systématique. Ma sia, ma cité, ma fessibo. Ma mastique, ma cisaille, oh, ma sico. Ma sirène, ma sidéale, ma symétrique. Ma cinéphile, ma si jolie, ma systématique.
On s'est voisins, ouai, minon, siège à la buena place. On s'est voisins, ouai, minon, as l'outil qui est gagnant. On s'est voisins, ouai, minon, t'y fasse qui la passe. On s'est voisins, ouai, minon, fagues par ou feignant. Fagues par ou feignant.
C'est l'heure d'aller de l'avant.
Fagues par ou feignant.
Allez, quitte donc ton divan.
Fagues par ou feignant.
Où tu verras, c'est pas crevant.
Fagues par ou feignant.
Oui, d'être engagé et vivant.
Fagues par ou feignant.
Et si tu veux du changement.
Fagues par ou feignant.
Ah, c'est toujours le bon moment.
Fagues par ou feignant.
Va combat l'abrutissement.
Fagues par ou feignant.
Et le système qui te ment.
Fagues par ou feignant.
Viens, ramène-toi, c'est urgent.
Fagues par ou feignant.
Car il faut réveiller les gens.
Fagues par ou feignant.
Faut contrôler les dirigeants.
Fagues par ou feignant.
se montrer plus exigeant.
Oui, allez, brise le carcan.
Non, ne fais pas le tchapaka.
Femme, maintenant, choisis ton cas.
C'est les valables ou les boucans.
Les boucans, les bouquines, les bouquines, les boucans. Massilia pour vitamine, reggae pour les boules.
Massilia, ma cité, ma fée si beau. Ma mastique et ma cisaillée au massico. Ma sirène, ma sidéra, ma symétrique. Ma cinéphile, ma si jolie, ma systématique. Massilia, ma cité, ma fée si beau. Ma mastique et ma cisaillée au massico. Ma sirène, ma sidérale, ma symétrique. Ma cinéphile, ma si jolie.
Alors, on vient d'entendre Massilia Sound System qui nous chantait Bona Adresa. Je crois que c'est la bonne prononciation, en tout cas j'essaye. Mais maintenant, nous sommes comme promis avec Victor Pilon. Bonjour.
Bonjour à vous.
Ah, ça nous fait plaisir de vous avoir en ligne, ça. Vraiment, vraiment.
Je suis enchanté. Je suis présentement à Olympe, dans l'antre du stade olympique.
Ah oui?
Oui, je suis en préparation.
Ah d'accord. Écoutez, c'est tellement... extraordinaire cette performance. Alors, on va peut-être commencer par expliquer, avant d'aller au pourquoi de cette performance, ce qu'est l'histoire de Sisyphe.
Ah, Sisyphe, ce personnage, je crois que les gens ne le connaissent pas, mais quand même, je crois qu'il fait partie de notre conscience collective, parce qu'on a tous vu cette image, cette caricature de cet homme qui pousse son rocher au sommet d'une montagne et qui retombe aussitôt.
On le connaît pour sa punition, on va dire ça.
Oui. Mais Sisyphe aussi, il est le roi de Corinthe, il est le patron de la navigation et du commerce. Il est aussi le père d'Ulysse. C'est une chose qu'on ne connaissait pas et que dans mes lectures, j'ai découvert. Et il est considéré... par les dieux comme étant le plus astucieux des hommes. Alors, c'est quelqu'un de très malin, notre Sisyphe. Et puis, son châtiment est un peu à cause qu'il a dénoncé Zeus, puis il a trompé la mort à deux reprises. Alors, c'est ça, sa grande faute.
Ah, c'est sa grande faute. Alors, moi, je croyais que c'était l'histoire du palais, qu'il avait fait construire un palais trop immense...
Non.
C'est pas ça.
Oui, il était un peu mégalomane, ce sujet. Mais c'est surtout, il a dénoncé Zeus qui a volé la fille de Asopos. Et puis, en échange pour avoir une source d'eau, une source d'eau éternelle pour sa ville de Corinthe, alors il a dit à Asopos, le père d'Égine, où il était caché. Alors Zeus, il n'aime pas quand on le trahit comme ça. Et alors, Zeus a envoyé Thanatos pour l'amener à la mort, mais Sisyphe, il a menotté la mort.
D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous a... il me semble avoir lu que vous, c'est quand vous avez lu l'histoire par Camus que vous avez été très touché par ça, ou vous aviez fait déjà des recherches avant?
Ça fait une quarantaine d'années que j'ai une obsession sur le mythe de Sisyphe. Ça fait partie d'une trilogie. J'ai travaillé avec un spectacle avec Michel Lemieux, mon partenaire de création. On avait fait un spectacle sur le mythe d'Orphée, un sur Icare qui était présenté au TNM. Et là, pour moi, je viens clore avec cette trilogie sur les mythes sur Sisyphe. Et oui... je suis tombé sur l'essai philosophique « Le mythe de Sisyphe » d'Albert Camus. Ça a été pour moi vraiment une révélation. On connaît Camus surtout pour ses romans, pour ses pièces, sa dramaturgie, mais on ignore parfois ses essais.
Ah oui, complètement. C'est vrai, on ne le connaît pas assez. Et là-dessus, je ne le savais pas parce que moi, c'est en lisant sur vous que j'ai appris qu'il avait fait un essai sur Sisyphe. Voyez-vous.
Ah non, mais c'est magnifique. C'est un essai qui a une grande, grande, grande profondeur. Et il a écrit ça il y avait 27 ans. Il a écrit ça après l'étranger. Ah oui. Et toute l'œuvre de Camus, elle est comme en trois cycles. Et dans son essai philosophique sur le mythe de Sisyphe, c'est le cycle de l'absurde.
Oui.
Alors, c'est le monde qui dit non à l'homme. Qui est représenté par Sisyphe. Et Camus dit que Sisyphe, c'est l'ultime héros de l'absurde. Et que Sisyphe, c'est une métaphore de la condition humaine. Toute cette idée de métro, dodo, boulot.
Oui, oui, oui. Complètement.
À quoi ça sert? À quoi bon qu'on se lève le matin pour aller travailler, le faire 9 à 5? Alors, je crois ce qu'on vient de vivre avec la pandémie nous fait réfléchir sur le sens de notre existence et ce qu'on veut de notre vie. Et la réflexion de Camus va dans ce sens. Il dit qu'on cherche un sens à notre existence et il n'y en a pas. Il n'y en a pas finalement.
Mais à partir du... Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce qu'à partir du moment où on fait un travail régulier, certes, mais qu'à côté, on arrive à se créer des moments pour soi, pour vraiment profiter et vivre complètement...
On
vit. Alors là, on parle plutôt de ceux qui font ça de façon presque automatique, sans se regarder vivre et sans être dans le moment présent. Mais ça, c'est une autre discussion.
Exactement. mais toute la réflexion de Camus nous amène à ça. C'est de vivre dans le moment présent et de profiter de la vie. Et même avec le métro dodo-boulot, on peut être créatif.
Ah oui, oui.
Mais d'être conscient de l'absurdité, parce qu'on est né sur cette terre, on ne sait pas tout à fait d'où on vient, où on va. Il n'y a pas d'ultime cause ou d'ultime raison à notre existence. Puis ça, c'est Schopenhauer, le philosophe Schopenhauer, qui a développé toute cette idée d'absurdité, que la mort est une absurdité finalement. Là. Mmh. Et que Sisyphe, lui, il tenait à la vie. Il refusait la mort. Il a trompé la mort. Il a déjoué la mort parce qu'il y avait le goût à la vie. Alors, c'est dans ce sens-là que Camus dit qu'on doit reconnaître. Puis une fois qu'on reconnaît, et cette conscience, cette lucidité peut nous emmener au bonheur.
Voilà.
Peut nous emmener à vivre le moment présent. Mais dit, il faut faire attention parce que souvent, si on dit que la vie n'a pas de sens, qu'est-ce qu'on fait? On se suicide parce que ça n'a pas de sens, il n'y a pas de raison. Sinon, on fuit dans des dogmes, on vit pour une vie après la mort et on ne profite pas vraiment de la vie ici présente, qu'elle est unique. Et je pense qu'il nous aide à vivre plus dans le moment présent et dans la vérité.
Mais voilà, sortons du passé. Le passé, c'est passé, c'est le cas de le dire. Hein? Donc, on vit autre chose. Le futur, de toute façon, on ne le saura jamais. À part qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont devins ou devineresses, mais moi pas. Donc, je ne sais pas ce que demain me réserve, ni même ce soir. Et profitons. Donc, je profite du moment où je vous ai en ligne et que je vous parle. Voilà. Ça, c'est mon moment présent.
Ben moi, je dirais, c'est la réflexion qui me vient, c'est vraiment... vivre et non juste exister.
Voilà, c'est ça.
La majorité des gens font juste exister.
C'est ça.
Oui, tout à fait. Et même, Suzette, à un moment donné, Camus dit qu'on doit l'imaginer heureux. Mm-hmm. Alors, Sisyphe, finalement, il fait un pied de nez au dieu, à Zeus, parce qu'il accepte en quelque sorte son sort, il devient un avec sa pierre, et il crée son univers, il crée son bonheur. Alors, ce n'est plus un châtiment.
Et il est dans sa tête et dans le lien qu'il a fabriqué avec d'autres. Ah non, c'est magnifique. J'aime beaucoup. On va continuer à en parler de ce que vous faites, mais là, on va faire une petite pause musicale.
Merci.
On va écouter Garnaud et Bory. On a des pattes de belles oreilles, puisque Michel Garnaud nous a disparu la semaine passée. Donc voilà, nous l'écoutons. À tout de suite.
Ah, oui.
On a des pattes, des belles oreilles, des nez qui hument, des yeux qui grouillent. On a des poils et de la peau très douce. On a des griffes et des langues roses. On lèche parfois, parfois on mord, on hurle à la lune en faisant l'amour. On se fait écraser par l'autobus. Ta-la-ta-ta-ta-ta-la-ta-ta-la. Ou ben on meurt vieux. Sans avoir rien dit. Lila, lila, l'amour est là. Lila, lila, ouvre les bras. Lila, lila, l'amour l'amour est là, Lila, Lila, ouvre les bras. On peut nous voir parfois ensemble, on jurait qu'on parle pour vrai. Des fois on pense, on dirait qu'on souffre. Des fois on grogne, on dirait qu'on pleure. On est les plus beaux, on est les plus laids, on est les plus forts, on est les plus faibles. Quand on n'a rien, on a besoin de tout. Tout, 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 tout. Quand on a tout de tout, on n'a besoin de rien. Lila, Lila, l'amour est là. Lila, Lila, ouvre les bras. Lila, Lila, l'amour est là. Lila, Lila, ouvre les bras. Lila, Lila, l'amour est là. Lila, Lila, ouvre les bras. Lila, Lila, l'amour est là. Lila, Lila, ouvre les bras.
Alors Victor Pilon, revenons sur cette performance que vous allez nous offrir, que vous allez vous offrir. Aussi.
Oui, alors cette performance, je me suis dit que si le rocher de Sisyphe a tombé sur l'éternité, tombe de sa montagne, va se fracasser, va devenir un peu du sable. Mmh. Alors, durant 7 heures par jour, 6 jours semaine, pour 30 jours, je vais déplacer avec une pelle une montagne de sable de 50 tonnes d'un point A à un point B sans arrêt.
C'est fou.
Ben oui.
Ça va être une...
extraordinaire.
C'est cette expérience parce que, en tant que spectatrice ou spectateur, je veux dire, on regarde ça et on vit des choses à l'intérieur de nous. Chacun va réagir à sa manière, c'est sûr. Mais pour vous, ça vous donne l'occasion d'être... C'est quoi le mot? D'être en autarcie avec votre tonne de sable, d'être complètement dans une bulle, dans ce que vous faites?
Oui, la performance vient vraiment des arts visuels et pour moi c'est un retour aux arts visuels. Oui. On n'est pas au théâtre, l'effort physique est réel, surtout 7 heures par jour à déplacer cette montagne. Je vais quand même voir comment que je suis une introvertie, alors de me mettre sous les rampes de feu comme ça, c'est tout un défi pour moi. Cette montagne de sable devient un sablier, un immense sablier va se déplacer, tout ça. Et puis je pense que ça va être une expérience de contemplation, d'introspection, de réflexion. Je crois que l'art doit parfois nous confronter, nous réconforter, et je pense que ça va nous faire, je pense, réfléchir. Je pense qu'on peut tous s'identifier à ce personnage-là de Sisyphe. Je crois qu'on est tous un peu Sisyphe dans nos vies.
Ah oui, mais complètement. Mais est-ce qu'on le serait à petite échelle ou à grande échelle comme vous? Ça, c'est une question pour laquelle je n'ai pas encore de réponse.
Mais c'est un défi physique et un défi mental aussi que je me mets. Des fois, comme artiste, il faut se dépasser, il faut faire des choses qui nous dépassent et puis qui nous rend peut-être plus sensible, plus vrai et plus libre. J'ai bien hâte de le vivre, j'ai bien hâte de le partager aussi avec le public.
C'est très bientôt parce que c'est mardi prochain.
C'est mardi prochain, je suis présentement en montage. Demain, je reçois ma montagne de 50 tonnes de sable au stade olympique.
Excusez-moi, mais vous avez fait des essais pour vous mettre en forme, pour savoir que vous pourriez tenir la cadence et tenir le coup. Mais
oui.
Mais là, ça va être complètement différent, quoi. Vous allez voir cette monstrueuse montagne de sable que vous allez avoir à déplacer et les gens qui vont être là aussi.
Oui, j'ai répété pendant... ça fait un an que je prépare cette performance-là et j'ai répété à ma maison de campagne, j'ai fait livrer 40 tonnes de sable. Alors, j'ai répété pendant 6 heures par jour.
Ah oui?
Parfois au plein soleil. Alors ici, je pense que ça va être encore... je pense que ça va être un plaisir. Je pense que je vais tomber dans un état, je ne sais pas trop quoi, comment ça va me transformer, comment je vais vivre ça. Il n'y a pas de règles, hein. C'est pas une pièce de théâtre, alors il y a beaucoup d'inconnus.
Non, mais vous connaissez ça, le rapport avec un public. Et donc, le public envoie, sans parler ou peut-être en murmurant, mais envoie des ondes, des signaux. Enfin, il y a toujours quelque chose, il y a toujours une forme d'énergie qui se passe,
oui,
que vous allez avoir,
oui,
et que vous n'avez pas eu dans votre jardin, parce que vous étiez tout seul à le faire.
Exactement. Le regard des autres, il me fait toujours un peu peur. Pour un être averti, le regard des autres est toujours un peu intimidant. Mais je le fais avec beaucoup, beaucoup d'humilité et je le fais aussi avec beaucoup de générosité. Et puis, j'ai des gens autour de moi qui m'ont appuyé tout le long. C'est le Musée des Beaux-Arts de Montréal qui ont des partenaires et le Parc olympique. Que Sisyphe se retrouve à Olympe pour Parc olympique, je trouve ça une belle ironie. Là.
Et puis, oui, tout à fait.
Oui.
Mais c'est vraiment une très, très belle idée. Elle est partie d'où, ce désir?
Elle est partie, ça met le questionnement, des questions existentielles. Et moi, j'ai perdu mon conjoint il y a 3 ans dans un accident de voiture. Alors, c'était un choc. Ça a été une remise en question. Comprendre l'absurdité de la disparition de quelqu'un qu'on aime.
Oui.
Alors, ça remuait beaucoup de choses. Alors, ça fait partie de mon cheminement. Alors, l'œuvre est aussi un peu dédiée à cette personne. Alors, il y a quelque chose aussi de personnel. C'est peut-être l'œuvre la plus audacieuse et la plus intime que j'aurais jamais créée dans ma carrière.
Pour l'instant.
Oui, pour l'instant. On verra.
En tout cas, c'est de là aussi que vient cette espèce de... Pas d'enfermement, mais de bulle aussi dans le souvenir, dans l'offrande que vous faites et dans cette performance, et qui va peut-être vous protéger un petit peu du public, même si le public vient là pour admirer, pour voir, pour comprendre et pour vivre des émotions. À un moment donné, vous allez faire ça de façon... sans même vous rendre compte que vous êtes en train de pelleter, quoi. C'est ça, je veux dire.
Oui. Le grand défi, hein, c'est, je pense, dans toute création et toute entreprise artistique, c'est comment rester dans la vérité et être authentique et de partager quelque chose d'intime qui est universel, je pense. Le but, c'est de partager, c'est de communiquer, c'est d'échanger. C'est ça qui fait que les humains, c'est la beauté de l'humanité, c'est dans ça.
Alors, une dernière question dans les 10 minutes qui nous restent.
Oui.
On est avec notre chroniqueuse du jour qui est Poussa Divani, qui s'est occupée du Salon de la mort à Montréal. Donc, elle avait une question pour vous.
Non, j'ai pas une question. Je vous écoute et je suis muette d'admiration parce que je me fais un cinéma, là. Je vois des images. Puis je me dis, mon Dieu, ça va être extraordinaire, cet événement-là, ce spectacle-là. Et puis, vous parliez de sablier tantôt, puis justement, le vivre et tout ça. Alors, je voulais juste faire... J'avais juste une réflexion que, à travers la gorge étranglée du sablier, là, notre bonheur est minuté, là, tu sais. Alors, j'avais juste goût de dire ça.
Puis
j'avais cette image-là.
Voilà.
Ah, c'est bien. Mais Camus disait que la vraie générosité envers l'avenir, c'est de tout donner au présent. Alors, je vais tenter de tout donner. Pendant 7 heures par jour dans cette performance.
Écoutez, Victor Pilon, c'était d'abord merci beaucoup d'avoir été là. C'est une performance marathon, donc c'est du 28 septembre au 27 octobre 2021 dans le hall est du stade olympique, attention, de Montréal.
Oui. Merci infiniment.
L'entrée est gratuite et le soutien est là pour faire, mais écoutez, félicitations. Puis si jamais Je vous le demande, mais vous ferez comme vous l'entendez. Mais j'avoue qu'après l'avoir fait, quand vous aurez repris un peu du poil de la bête, il me ferait plaisir de parler avec vous de ce qu'a été cette expérience.
Avec plaisir, ça me ferait vraiment plaisir.
Merci pour la générosité.
Merci beaucoup de l'intérêt.
Merci, au revoir.
Okay, au revoir.
Bye bye.
Merci, bye.
Ce que tu voulais. J'ai mis mon cœur entre tes mains. Tu lui déplaires ce que tu voulais. Tu devrais pas t'en servir comme ça. C'est fragile, c'est pas un jouet. Et si un jour tu veux revenir, dis-toi que je serai plus jamais le même. Et si un jour tu veux revenir, dis-toi que je serai plus jamais le même. Ça sera pas si facile qu'avant, mais je suis prêt à tout pour que tu reviennes. On m'avait pourtant prévenu, nous deux on jouait un jeu dangereux. La première fois j'ai tout perdu, la deuxième c'était pas mieux. J'ai mis mon cœur en soi ses mains. Tu devais faire ce que tu voulais. Tu devrais pas t'en servir comme ça. C'est fragile, c'est pas un jouet.
On vient d'entendre Benoît Blueboy, Stan Noubarpacha et Nico de Portal du Portal qui nous chantaient Résolument Bleu. Eh bien, écoute, belle expérience. Alors, allez-y à n'importe quel moment voir Victor Pilon. Vous pouvez rentrer au Stade Olympique, c'est gratuit. Vous allez le voir, vous passez une heure, vous revenez, vous en passez, vous revenez une autre fois, vous vivez des sensations. En tout cas. Je le répète, c'est du 28 septembre au 27 octobre 2021. Puis j'espère qu'après, on aura la chance de l'avoir pour savoir un peu comment ça s'est passé, comment il a vécu cette belle expérience. Et puis, comme c'est la fin de cette émission, on dit aussi merci à Poussadi Vanille.
Merci pour l'invitation.
Et à sa chronique mortelle. En plus, elle nous a fait un lien super pour ceux qui l'ont écouté cet été avec ce qu'elle va venir faire régulièrement ici, dans cette émission. Merci pour ça, Poussadi.
Merci c'est à toi, Arlette.
Alors, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, eh bien... Rendez-vous demain. Merci Maurice Bolduc.
Oui, merci Maurice.
Qui est pour le choix des musiques. Yeah! Et demain est encore une autre aventure. Mais je suis absolument fascinée. Bon, par toi bien sûr, mais par Victor Pilon. Je suis très très intriguée.
Oui. On a encore des questions. On aimerait ça lui parler encore.
Tout plein de questions. Donc, merci à vous toutes et tous. J'espère que vous avez aimé autant que nous cette entrevue. À bientôt. Au revoir, à demain, pas à bientôt, à demain, soyez là demain, au revoir.